Je reprends l'analyse de ce que j'ai appelé la troisième figure de la littérature comme sport littéraire, après athlète et ami, nous en sommes à éreintage, mot que j'emprunte donc à Baudelaire, qui, vous vous en rappelez, est quasi seul à employer ce substantif, les autres contemporains disant éreintement, éreintement, qui est aussi un néologisme dont Larousse nous dit qu'il appartient au style du métier et qu'il est récemment passé de cette langue parlée des hommes de plume à la presse et à la littérature. Alors bien sûr, depuis la semaine dernière, j'ai trouvé quelques autres occurrences d'éreintage et donc Baudelaire n'est pas absolument seul à l'utiliser. Et en voici une particulièrement intéressante dans le Figaro en novembre 1854 à la rubrique Petite Gazette, et vous allez retrouver justement des noms qui vous sont familiers. Le franc juge, ce titre ronflant, appartient à M. Granier de Cassagnac, le parangon de la ligne droite, selon Baudelaire, qui va fonder ce journal avec l'aide de M. Sainte-Beuve, Barbé d'Orville, joliment écrit, etc. À la tête de l'entreprise est une célébrité commerciale, M. Dutac, dont les abonnés auront en prime les romans de Balzac. Les fondateurs de cette feuille quotidienne et non politique, bon, il faut qu'elle ne soit pas politique pour n'avoir pas à payer de cautionnement élevé, ont longtemps hésité entre le titre définitif et celui de l'éreintage quand même. Alors, Dutac, c'est le fondateur du siècle, hein, le grand quotidien depuis 1836, c'est un entrepreneur commercial. Bon, bien que le titre soit définitif, le journal Le Franc Juge ne verra jamais le jour. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est cette configuration où on retrouve ce Granier de Cassagnac. Et à la même page du Figaro, le Figaro qui est un journal tout nouveau à ce moment-là, il y a un article de Villemessant, le fondateur du Figaro, sur le procès intenté au Figaro par Jules Janin à la suite d'un éreintement. Donc à la même page du Figaro, on a éreintement de Jules Janin et éreintage associé à Granier de Cassagnac. Je crois que ça montre bien les deux méthodes. Et puis j'ai trouvé encore une autre occurrence de ce mot rare de l'éreintage, 1861, donc un peu plus tard, Baudelaire est tout de même l'un des premiers, dans une petite revue, autrefois, quand le chroniqueur se trouvait sans verre, quand il n'avait ni scandale ni assassinat sur la planche, il avait toujours une ressource toute prête, toujours la même, sauf quelques variantes insignifiantes dans la forme, un éreintage de Jules Janin, de Scribe ou de Dumas fils. Quand on manque de copies, eh bien, on éreinte. Et vous voyez que ce sont les écrivains à la mode, ceux dont on parle, qui serviront à cela. Bon, dans ces conseils aux jeunes littéraires, vous voyez aussi que le mot est toujours en italique. Il reste en italique dans toutes ces occurrences. Bon, dans les conseils aux jeunes littérateurs de 1846, donc Baudelaire, j'utilise ce terme assez tôt, il opposait la méthode droite de Granier de Cassagnac et la méthode courbe de Janin. Et vous vous souvenez aussi que je retrouvais la même distinction chez Sainte-Beuve entre le droit et le courbe en critique, où on la retrouverait, voici un exemple de Nestor Roqueplan. Nestor Roqueplan, c'est un des fondateurs du premier Figaro avant la Révolution de Juillet, qui a véritablement créé ce genre du journal spirituel et éreintant. Depuis, il s'est brouillé avec Janin à propos d'un opéra. En 1852, il est directeur de l'opéra. C'est une polémique à propos du Juif errant de Scribe avec musique d'Alévi. Et il dit de Jules Janin, « Votre attaque n'est jamais franche. Le trait à force d'être barbelé comme une arme chinoise. C'est vraiment l'homme de ce style mousseux ou moussu. Ne pénètre jamais, lutteur sans poignet, vous recourez au croc en jambe. Votre plume crache, étoile le papier et ne sait pas courir droit. Donc je retrouve toujours cette expression du droit et du courbe. Et la ligne droite, ben, on peut dire que c'est celle dont Baudelaire fait l'éloge dans les conseils aux jeunes littérateurs. Il faut que la critique soit droite. Et je terminais en vous donnant cet exemple baudelairien, puisque c'est aussi cette critique qu'il pratique, à propos d'Horace Vernet, ce militaire qui fait de la peinture. Je hais cet art improvisé, roulement de tambour, ces toiles badigeonnées au galop, cette peinture fabriquée à coups de pistolet. Il s'agit de la bataille d'Isly, que je vous montrais la semaine dernière, que revoici ce grand tableau. Il faut ajouter que Baudelaire n'est pas le seul à être sévère avec ce grand tableau que vous pouvez aller admirer au musée de Versailles, avec les grands tableaux historiques du musée de Louis-Philippe. Il n'est pas le seul à critiquer sévèrement ce tableau, et Gustave Planche, le critique anti-romantique de la Revue des Deux Mondes, écrit aussi que malgré des qualités, ce tableau, je ne dis pas que ce n'est pas un bon tableau, mais ça ne suffit pas ces qualités pour composer seulement un tableau. Donc ce n'est pas un tableau pour Gustave Planche. Pour Thoré, autre critique important dans le journal, dans son salon de 1946, il dit « La bataille d'Isly n'est pas plus un tableau que la grande toile de la Smala, d'Abdelkader, plus célèbre encore. Les fonds manquent de profondeur et le ciel est, comme toujours, en papier gris légèrement bleuté. » Donc la critique de Baudelaire, même si elle est beaucoup plus violente que les autres, va dans le même sens que cette critique plus installée. Mais Baudelaire continue ainsi, et vous voyez que l'éreintage continue. « Je hais cet homme parce que ses tableaux ne sont point de la peinture, donc il est en accord avec les autres, mais une masturbation agile et fréquente, une irritation de l'épiderme français. » Bon, après éreintage, masturbation, irritation de l'épiderme, ce sont des mots de nouveau très violents, physiques, absents évidemment chez Planche et Thoré, et ce sont des mots qu'on ne trouve pas couramment dans les textes littéraires et dans la critique du XIXe siècle. Il est vrai que masturbation est utilisée au sens figuré, masturbation morale par les Goncourt, masturbation de l'âme par Vigny dans le journal d'un poète, et dans ces sens, cela signifie, cela décrit un effort infécond, la complaisance esthétique ou intellectuelle. Quant à l'épiderme, l'épiderme, c'est un terme qu'on trouve dans la critique, et cela suggère justement l'absence de profondeur qui est reprochée au tableau d'Horace Vernet. C'est un terme que Sainte-Beuve utilise souvent pour dénoncer le caractère superficiel d'une entreprise littéraire. Par exemple, il dit de Madame de Girardin qu'elle s'en tient volontiers aux surfaces et à l'épiderme. Une littérature qui est donc peu profonde. L'accusation de Baudelaire est donc en cohérence avec la réception de cette œuvre. Voici comment elle est caricaturée par Benjamin Roubaud dans le Panthéon charivarique. Horace Vernet, la légende que vous ne pouvez pas lire, Horace Vernet peint tous ses tableaux d'histoire au grand galop, cette peinture au grand galop. Et dans un de ses innombrables dictionnaires des célébrités, celui de Fortunatus, que Baudelaire connaît bien puisqu'ils ont collaboré au Mystère galant, il donne cette définition d'Horace Vernet, peintre ventre à terre. Donc Baudelaire est vraiment dans un cliché, mais évidemment il est plus violent Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de ce fameux éreintage, il revient sur l'opposition de la ligne droite et de la ligne courbe. Et j'avais, la semaine passée, aussi indiqué combien les allusions à l'escrime étaient présentes dans cette distinction du droit et du courbe. Bien des gens partisans de la ligne courbe en matière d'éreintage, c'est de nouveau ce mot que Baudelaire utilise en 1846, et qui n'aiment pas mieux que moi, M. Horace Vernet, me reprocheront d'être maladroit. Cependant, il n'est pas imprudent d'être brutal et d'aller droit au fait quand, à chaque phrase, le « je » couvre un « nous », nous immenses, nous silencieux et invisibles, nous, toute une génération nouvelle, ennemis de la guerre et des sottises nationales, une génération pleine de santé parce qu'elle est jeune et qui pousse déjà à la queue, coudoie et fait ses trous, sérieuse, railleuse et menaçante. C'est vraiment une déclaration de guerre. Baudelaire n'aime pas la guerre nationale, la guerre en Afrique, en Algérie notamment. Mais la guerre littéraire, oui, c'est une déclaration de guerre et il en est partisan, il est partisan de cette hostilité de la nouvelle génération. Vous voyez que le mot « jeune génération » apparaît plusieurs fois. Le mot « jeune » et il s'agit donc d'un conflit où, avec ce « nous », souvenez-vous de « l'union fait la force » dans les conseils aux jeunes littérateurs, les jeunes contre les gloires établies, comme Horace Vernet, dans un lexique très agressif, mais dont les expressions peuvent paraître énigmatiques. En tout cas, elles me laissent perplexe. On sent que ce sont des images très physiques, en même temps un peu obscures, hein, poussées à la queue, hein, qui poussent déjà à la queue cette génération. On se met à la queue, on est à la queue, on fait la queue. Que veut dire Baudelaire par « pousser à la queue » ? Un peu plus loin dans le salon de 1846, il parle de la queue ridicule de l'école impériale en peinture, cette queue ridicule de l'époque classique. On sent bien qu'il s'agit de pousser hors, de bouter les attardés, les retardataires, cette queue des écoles classiques. Coudoyer, c'est aussi employé de manière un petit peu étrange. Coudoyer, c'est toucher du coude, heurter. Ici, on a l'impression qu'il s'agit plutôt de donner des coups de coude, hein, de jouer des coudes, d'avancer en écartant la foule avec les coudes, hein, au sens, là aussi, de d'évincer, de mettre dehors. Et je trouve une expression tout à fait proche, justement sous la plume de Jules Janin, dans son fameux manifeste de la jeune littérature. C'est la jeune littérature qui coudoie ce texte de 1834, avant qu'il ne devienne le critique bourgeois, le critique marié. Et il dit de cette jeune littérature, « Ils ont été forcés de coudoyer brutalement pour parvenir tout ce qui se faisait et qu'on appelait de l'art avant eux. » Donc coudoyer, pousser à la queue, c'est vraiment écarter tous ceux qui occupent le terrain. Quant à faire ses trous, dernière expression, bon, c'est trop tôt pour vouloir dire faire son trou, s'installer. Cela veut plutôt dire percer de trous, traverser de trous, perforer, donc avec une arme blanche ou avec une arme à feu. On a trois expressions qui sont très concrètes, même si un peu obscures, dont la violence est évidente, même si la signification littérale et réaliste peut nous échapper. En tout cas, il s'agit bien de dresser les jeunes contre les vieux, comme dans le manifeste de la jeune littérature de Janin en 1834. Baudelaire continue d'employer ce terme éreintage, et le voici en 1852, donc après le coup d'État, dans le projet de nouveau projet d'une revue, d'une petite revue agressive, le Hibou philosophe. Et voilà le programme qu'il envoie à son ami Champfleury. Article à faire. Appréciation générale des ouvrages de Théophile Gautier, de Sainte-Beuve, appréciation de la direction et des tendances de la revue des Deux Mondes, Balzac, auteur dramatique, c'est pas le meilleur Balzac, La vie des coulisses, L'esprit d'atelier, Gustave Planche, Éreintage radical, Nullité et cruauté de l'impuissance, Style d'imbécile et de magistrat, Jules Janin, Éreintage absolu, Ni savoir, ni style, ni bon sentiment. Alexandre Dumas a confié à Moncelet, nature de farceur, relever tous les démentis donnés par lui à l'histoire et à la nature, style de boniment. Eugène Sue, talent bête et contrefait. Paul Féval, idiot. Bon, ce sont des notes de février 1852, dans l'esprit des petits journaux d'avant 1848. Bon, la revue ne verra jamais le jour, hein, comme pas plus que l'éreintage quand même de Granier de Cassagnac, mais ça nous indique bien cette volonté de démolir les hommes en vue qui occupent le paysage littéraire, à côté des feuilletonistes, hein, Eugène Sue, Paul Féval, Balzac même, Alexandre Dumas, hein, les deux bêtes noires sont clairement identifiées. Hein. Ce sont Gustave Planche, le critique de la Revue des Deux Mondes. Je ne sais pas s'il était bien payé pour ses articles dans la Revue des Deux Mondes, mais la Revue des Deux Mondes était évidemment la revue la plus importante de ce moment-là. Je vous rappelle que Baudelaire y publiera Les Fleurs du Mal un peu plus tard, et Jules Janin dans le journal Les Débats. Donc les deux grands critiques du moment. Et plus bas, dans ce même... ces mêmes notes pour Champfleury, Baudelaire donne la liste des livres dont il faudrait rendre compte dans les premiers numéros de la revue, et dans cette liste figure le dernier roman de Jules Janin, La religieuse de Toulouse, a tué. Tuer un livre, c'est donc bien cela, éreinter, l'éreintage tel que le conçoit Baudelaire. C'est une exécution, c'est une décapitation, et le mot éreintage dit tout ce côté d'extrême violence. Dans un autre projet d'article contre Jules Janin, Baudelaire voudrait, là aussi ça ne sera jamais publié, c'est un brouillon, il veut s'en prendre à ce qu'il appelle le trémoussement infatigable d'une ancienne danseuse. Et vous retrouvez dans ce trémoussement le mousseux, le moussu, le puff que Stendhal condamnait dans cette critique. Baudelaire a donc bien commencé comme un éreinteur, hein, en faisant ses armes, comme on dit, il a fait ses armes, dans la petite presse. Il a collaboré au Mystère galant des théâtres de Paris en 1844, publication de chantage contre les actrices, puis au Corsaire Satan, c'est sa publication, la revue la plus connue de cette période, notamment l'article qui se moque de Balzac, comment on paye ses dettes quand on a du génie, en 1945-46, et puis il a collaboré au Tintamarre, en 1946-1947. Donc jusqu'à 1948, Baudelaire, c'est ce qu'il écrit, c'est comme ça qu'il a appris. Et sur ces mœurs agressifs des petits journaux auxquels il a collaboré, je vous avais conseillé de lire, on a un bon témoignage, celui de Champfleury, justement, dans Les aventures de Mademoiselle Mariette, roman de 1853, qui transpose le milieu du Corsaire Satan. Ce milieu, je vous le rappelle, Balzac, lui, le décrivait comme un infâme petit journal, un égout littéraire où passent les calomnies les plus sales. Mais il connaissait tous les collaborateurs, hein, du Corsaire Satan. Et ce corsaire Satan est dirigé par un ancien ami de Balzac. Voici comment Asselineau, l'ami de Baudelaire, le décrit dans son livre de sa biographie de Baudelaire après la mort de Baudelaire. Le corsaire Satan, dirigé par le Poitevin Saint-Alme, cet ancien ami de Balzac, un vieillard solennel, à mine de vieux troupier, qui découvrait majestueusement ses cheveux blancs devant quiconque s'avisait de venir se plaindre des vivacités de la rédaction. Donc il a, comme Giroudeau dans Illusion perdue, l'allure d'un vieux grognard, hein, d'un vieux troupier. Il faut que le secrétaire de rédaction, celui qui tient le journal, soit prêt pour accueillir les plaintes de ceux qui ont été éreintés par le journal. Donc s'ils viennent se plaindre, eh bien ils montrent son âge. Là débutèrent Champfleury, Murger, Banville, Fauchery, toute la bande de ceux qui, comme dit Asselineau, auront des destinées bien diverses. Selon Champfleury, dans Les aventures de Mademoiselle Mariette, cette feuille, ce journal satirique, dit-il, procédait à la démolition des écrivains célèbres. Si on louait quelquefois les gens, le plus souvent, on attaquait. Donc c'est un journal d'attaque, ainsi qu'il est décrit par Champfleury dans ce roman. Monsieur de Saint-Charmé, c'est le nom de Saint-Alme dans le roman, avait pour grand système de ne pas laisser place à l'amitié soulignée dans son journal. L'amitié, c'est cette camaraderie dont on a parlé plus tôt à propos de la figure ami-ennemi, cette dénonciation de la camaraderie littéraire, des coteries, du compérage, pas de compérage, au corsaire Satan. Il permettait les attaques les plus violentes contre tout ce qui a un nom, bon, tous les écrivains en vue, mais il n'aimait pas l'enthousiasme et chaque rédacteur devait au moins livrer 10 articles d'éreintement soulignés, hein, avant de pouvoir faire passer un article agréable à quelqu'un. Enfin, le jour où paraissait l'article aimable était attendu impatiemment par son auteur, qu'il avait promis et qui espérait ainsi se faire des relations. Mais le lendemain, les co-rédacteurs jaloux avaient rédigé contre la personne louangée plusieurs articles tellement perfides que l'article de la veille devait servir à irriter davantage la personne dont il était question. Voilà comment on travaille dans les petits journaux où il n'est pas question de tirer le moindre bénéfice. Et je trouvais sur cette notion de personne louangée, d'article louangeur qui tourne au détriment du journaliste qui l'a publié, cette caricature de Daumier, où malheureusement, une fois de plus, l'auteur dont on se moque est une femme. C'est malheureusement dans le cas, dans toutes les caricatures de Daumier que je trouve, intitulé « Un article louangeur, les beaux jours de la vie, un article louangeur », donc cette notion de louangeur, louangé, dans le Charivari de 1835, avec cette légende. « Lisez l'article que j'ai rédigé sur votre ouvrage, je crois que vous serez satisfaite. » La dame lisant, nous venons de prendre connaissance du volume publié par Madame Eulalie de Boisfleury et nous pouvons annoncer hautement que la France compte une buse de plus. Comment buse ? Mais j'avais écrit muse, brigand d'imprimeur. Alors, est-ce l'imprimeur ? Est-ce les amis du journaliste, hein, dans cet ami-ennemi, hein ? Il n'y a pas d'amis, on l'a vu dans la figure ami-ennemi, qui ont introduit cette coquille qui change tout dans le sens de l'article. Baudelaire a donc collaboré à au mystère galant avant le corsaire Satan, juste avant, en 1944. Les mystères galants, c'est un volume de chantage, hein, des actrices qui est publié par un éditeur qui publie en même temps une série sérieuse et une série d'éreintements. Il publie une série de volumes, de fascicules, intitulés « Les actrices célèbres contemporaines », et en même temps, il publie les mêmes dans une série qui s'appelle Les actrices galantes, pour se moquer d'elle. Rachel fait un procès, mais c'est comme ça que fonctionnent les revues, et c'est comme ça que le premier Figaro, le Figaro qui est créé par le même Saint-Alme en 1826, héros de 26, il est décrit plus comme ceci, « Tous les acteurs et actrices de Paris furent obligés de lui payer tribut, c'est-à-dire de s'abonner. » Et cette technique des petits journaux est décrite dans un journal de 1857 qui reprend cette méthode. « Tout acteur qui ne veut pas être éreinté doit s'abonner. Chaque abonné obtient 3 lignes de louange, sur ce mot de louange, par trimestre d'abonnement. Tout supplément louangeux doit être payé à raison de 1 ou 2 francs la ligne. Les insultes sont toutes gratuites pour les artistes non abonnés. » Donc c'est bien l'économie des petits journaux auxquels Baudelaire collabore, notamment ces mystères galants des théâtres de Paris qui sont précédés de ce frontispice de Nadar. La photographie n'est pas très bonne, mais je l'ai prise dimanche, le jour de fermeture de cette belle exposition Baudelaire, qui était au musée de la vie romantique. Vous ne pouvez plus la voir, elle a fermé dimanche, mais ce volume était là, et vous voyez ce magnifique frontispice qui est un ogre, un monstre, celui qui dévore les actrices. C'est signé Nadar, vous voyez le N de Nadar ici, au-dessus de la tête du monstre, un mystère galant des théâtres de Paris, l'actrice qui supplie un journaliste déguisé en Pierrot et qui tend des journaux ou des affiches où il y a écrit « Action », c'est le procès de Rachel contre le journal, « Actrice galante » et « Actrice très galante ». Et beaucoup de détails de ce frontispice sont encore intéressants. Sur les dents du monstre, on a, nous, Véron. Véron, c'est le protecteur. C'est le protecteur de Rachel, c'est le propriétaire d'un certain nombre de grands journaux parisiens. C'est le docteur Véron qui est le directeur du Constitutionnel, l'un des grands journaux du temps. Et dans ces mystères galants des théâtres de Paris, il y a un chapitre particulièrement violent à l'égard de Rachel, intitulé « Histoire d'Herminione », puisqu'elle a fait ses débuts dans le rôle d'Hermione, et c'est ce qui l'a rendue célèbre. C'est un chapitre qui est particulièrement désagréable. Claude Pichois, dans son édition, dit « Ce morceau respire l'antisémitisme et le chantage ». Et alors, les critiques de Baudelaire ont souvent envie de le retirer à Baudelaire. C'est anonyme, tout cela, et de prétendre que ce n'est pas Baudelaire qui l'a écrit. En tout cas, on y reconnaît un certain nombre de traits du style de Baudelaire. Bon, Baudelaire a donc participé à cette petite guerre des petits journaux autour de 1846, et bien sûr, c'est ce que l'on retrouve dans sa nouvelle « La Fanfarlot », où Samuel Cramer est, comme dans les aventures de Mademoiselle Mariette, un journaliste de cette petite presse. Et voici ce qu'en dit Baudelaire dans La Fanfarlot. À cette époque, La Fanfarlot est publiée en janvier 1847, donc c'est le moment même auquel il est en train de... le mouvement même auquel il est en train de participer. À cette époque, les articles d'éloge et de critique avaient beaucoup plus de valeur que maintenant. Les facilités du feuilleton, comme disait récemment un brave avocat dans un procès tristement célèbre, j'aurai l'occasion de revenir à ce procès parce que c'est un procès relatif à l'un des plus grands duels de l'époque, qui a lieu en 1846, l'un des plus grands duels littéraires avec un mort célèbre. Comme a dit l'avocat, était bien plus grande qu'aujourd'hui, quelques talents ayant parfois capitulé avec les journalistes, voilà, chantage des journalistes à l'égard des actrices, l'insolence de cette jeune étourdie et aventureuse ne connut plus de bornes. Samuel entreprit donc, Samuel Cramer, lui qui ne savait pas un mot de musique, la spécialité des théâtres lyriques. Dès lors, la fanfarlo fut hebdomadairement éreintée au bas d'une feuille importante. Bon, je passe sur le détail de l'éreintement de la fanfarlo. Elle est accusée de brutalité, d'ivrognerie et de lesbianisme. Le journaliste dit qu'elle aime trop les petits chiens et la fille de sa portière. Les actrices ont toujours un petit chien au XIXe siècle, en général un caniche. Cramer révèle les linges sales de la vie privée qui sont la pâture et la friandise journalière de certains petits journaux. Avec le résultat, en bas de la citation, « si bien qu'après avoir dénigré pendant 3 mois la fanfarlo, il en devint éperdument amoureux et qu'elle voulut enfin savoir quel était le monstre, le cœur d'airain, le cuistre, le pauvre esprit qui niait si opiniâtrement la royauté de son génie. » Le résultat, c'est qu'il tombera sous sa coupe, fondera un journal socialiste, tandis qu'elle fera des enfants. Et finalement, cela finira très mal pour lui. Alors j'aimerais bien, esquisser le portrait de Jeannin et de Granier de Cassagnac, parce que ce sont vraiment les deux pendants, les deux modèles de la ligne droite et de la ligne courbe, les deux voies de l'éreintage. Mais je suis assez en retard, puisque je n'en suis qu'à ma troisième figure, donc je vais, je crois, encore une fois remettre ça. Juste quelques mots sur ces deux voies de l'éreintage. Ce qui est intéressant chez Jeannin et Granier de Cassagnac, c'est que tous les deux se sont fait un nom avec un seul article. Un coup d'essai qui a été un coup de maître. Jeannin, c'est un article, son premier compte-rendu de théâtre dans le Journal des débats, le 1er novembre 1830, je crois, 1er novembre 1830, et Granier de Cassagnac, ben, par hasard, c'est aussi un 1er novembre, dans le même journal, Journal des débats, le 1er novembre 1833. Un article, chacun, et ça suffit à les lancer. L'article de Jeannin, c'est son premier compte-rendu de théâtre, c'est un éreintement courbe, je vous le citerai un jour ou l'autre, et Granier de Cassagnac, le 1er novembre 1833, c'est un éreintement d'Alexandre Dumas. Il est l'un des premiers à révéler tous les plagiats d'Alexandre Dumas, et c'est vraiment une démolition de Dumas, avec lequel il se raccommodera plus tard. En tout cas, on a là deux modèles, les voici, ils sont contemporains. L'un est né en 1804, l'autre en 1806. Bien entendu, on a des photos graphie de Nadar dans les deux cas. Et ce n'est pas seulement pour Baudelaire, mais c'est assez généralement qu'il représente, au fond, ces deux tactiques du combat littéraire. Je ne voudrais pas passer plus de temps à les présenter aujourd'hui, mais on aura l'occasion de revenir sur l'un et l'autre, sur ces deux styles de l'éreintement, au fond, le style perfide et le style franc. Pour caractériser Jeannin, je me contenterai de rappeler un mot de Sainte-Beuve, puisque Sainte-Beuve parle de lui dans les lundis. Il le caractérise, j'aime bien l'expression, par le turlupinage sur vénalité. Turlupinage sur vénalité. Voilà Jeannin pour Sainte-Beuve, tandis que Granier de Cassagnac, je le caractériserai par un mot de Barbé d'Aurevilly, bravo à tout faire. Bravo à tout faire, avec ce que j'avais dit du bravo il y a quelque temps. Le turlupin à gauche, ça veut dire le fantaisiste, hein, et le bravo, eh bien, c'est le spadassin, le condottiere. Et puis c'est intéressant de voir que Sainte-Beuve utilise encore, à propos de Janin, ce suffixe « âge », le turlupinage, avec ce que ce suffixe « âge » peut avoir de dérogatoire. On parle aussi, dans ces années-là, de turlupinisme. C'est dans Littré, si mes souvenirs sont bons. Le turlupinisme, comment est-il défini par Littré ? Ben, c'est le charlatanisme. On retrouve cette notion de charlatanisme déjà évoquée à propos de la camaraderie. Donc le turlupin, c'est le charlatan, c'est le compère de foire. Tous deux, aux yeux des contemporains, ce sont des girouettes, ce sont des opportunistes et ce sont des stipendiés qui s'adapteront au pouvoir successif. Mais je les laisse de côté comme ces deux emblèmes du droit et du courbe, parce que je voudrais passer à la quatrième figure de mon analyse du combat littéraire après athlète, ami-ennemi et éreintage. Cette figure, je l'appelle épigramme. Épigramme. Je voudrais l'aborder parce que ça sera important pour l'exposé qu'on aura tout à l'heure de Jean-Charles Darmon, puisque c'est une figure qui nous vient de l'âge classique et qui est reprise au XIXe siècle. Et vous allez voir, si j'ai le temps, comment elle est reprise et comment elle est transformée, cette figure de l'épigramme. Alors, si l'éreintage, c'est bien un nouveau genre, comme le disait Larousse, un genre contemporain, quelles sont les formes qu'emprunte ce genre? Ces formes, ce sont les traits qui sont lancés par l'athlète, j'ai évoqué la première figure de l'athlète, par le bravo, ou ce sont ces flèches barbelées du turlupin, comme Janin est décrit. Ce sont des pointes, des railleries, des sarcasmes. Beaucoup de mots pour désigner ces formes de l'éreintage. Mais je crois qu'il faut partir de la forme traditionnelle d'abord, qui est l'épigramme. L'épigramme défini comme un petit poème satirique qui se termine par un trait d'esprit. La pointe, c'est le trait d'esprit qui termine l'épigramme. Et dans les Illusions perdues, on insiste beaucoup, même si l'épigramme n'est plus en vers, si la forme est devenue prosaïque, on insiste beaucoup sur le fait, dans ce petit milieu d'Illusions perdues, que l'éreintage doit toujours se terminer par ce qui est appelé une plaisanterie. Il faut qu'à la fin, il y ait la plaisanterie qui se substitue à la pointe. Alors l'épigramme, c'est donc ce poème satirique terminé par une pointe, et puis c'est aussi, assez tôt, le trait satirique, le mot spirituel, qui n'est pas nécessairement en vers. Voici la définition de l'épigramme dans le Lycée de la Harpe. L'épigramme, dans le sens que l'on donne aujourd'hui à ce mot, donc à la fin du XVIIIe siècle, est, de tous les genres de poésie, celui qui se rapproche le plus de la satire, puisqu'il a souvent le même objet, la censure et la raillerie. Et même dans le langage usuel, un trait mordant lancé dans la conversation s'appelle une épigramme. Donc on a, vous voyez déjà, le sens propre et le sens lâche. Sens propre, quelques vers. Sens lâche, un trait mordant lancé dans la conversation. Et bien sûr, on aura toujours la liaison de ce terme d'épigramme et de celui d'esprit. Bien sûr, il y a une équivalence très forte entre l'épigramme, qui est un coup de plume, l'épigramme, et l'estocade, qui est un coup d'épée. Et on le rencontrera, notamment avec Cyrano de Bergerac, tout à l'heure, je pense. Je cite ici un livre que j'aurai l'occasion de citer à différentes reprises quand on avancera dans les figures du combat littéraire et qu'on rencontrera de manière plus directe le duel. Je cite un livre qui est intéressant, qui est une histoire anecdotique du duel dans tous les temps et dans tous les pays de 1861. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais voici ce qui nous est dit dans les premiers chapitres. À peine arrivé... Ah, pardon, mais j'ai sauté tous ces graniers de Cassagnac. Voilà l'épigramme, définition de la harpe. C'est l'anecdote qui rend célèbre Cyrano de Bergerac, qu'on retrouve au premier acte de la pièce d'Edmond Rostand. Un de ses amis, le satiriste Lignière, avait égratigné de la pointe d'une épigramme un grand seigneur. Bon, expression très intéressante, égratigné de la pointe d'une épigramme, hein, cet épigramme qui se finit par la pointe, le coup d'épée, un grand seigneur d'humeur peu endurante et qui avait juré de lui faire couper les oreilles. Il s'était réfugié chez Cyrano. Le soir, on vint l'avertir qu'une bande de gens armés l'attendait près des fossés de la porte de Nesle qu'il devait franchir pour rentrer dans son domicile au faubourg Saint-Germain. Lignière suait la peur. « Prends une lanterne, lui dit tranquillement Cyrano, et marche devant moi. Je veux t'aider moi-même à faire la couverture de ton lit. » Lignière obéit à regret. Cyrano invita les amis qui avaient soupé avec eux à le suivre pour jouir du spectacle. C'était entre autres M. de Bourgogne et de Cuisy, officiers au régiment de Conti, lesquels se promettaient bien de prêter main forte si besoin était. Cyrano se jeta résolument au milieu des assassins et ferrailla de telle sorte qu'il en tua deux, en blessa sept et mit le reste en fuite. Je crois qu'ils sont 100 chez Edmond Rostand, si mes souvenirs sont bons. Mais vous connaissez tous cette scène qui lit bien l'épigramme et l'estocade. Et on trouve dans le même livre d'Émile Colombet, l'auteur de cette histoire anecdotique du duel, le cas de Voiture. Ce terrible matamor répondit à un gentilhomme qui lui demandait raison d'une épigramme décochée contre lui. « La partie n'est pas égale. Vous êtes grand, je suis petit. Vous êtes brave, je suis poltron. D'ailleurs, vous voulez me tuer? Eh bien, je me tiens pour mort. » Voici l'attitude conventionnelle des relations entre les poètes et les hommes d'épée. Mais il y a quelques exceptions, comme Cyrano, justement, ou comme Scudéry, dont je parlerai la prochaine fois, quelques poètes qui sont hommes d'épée. Mais vous voyez que tout cela situe bien l'art de l'épigramme dans cette tradition du XVIIe siècle de Cyrano, de Scudéry. Le mot perdure au XIXe siècle, sous la Restauration, mais l'épigramme n'est plus généralement en vers. Ainsi, les épigrammes de Lucien de Rubempré, dans « Illusions perdues », sont en prose. Quand il fréquente le cénacle de d'Arthez, en cachette, il s'est exercé à aiguiser l'épigramme. « Après s'être dégourdi l'esprit pendant les soirées passées chez d'Arthez, Lucien avait étudié les plaisanteries et les articles des petits journaux. » La plaisanterie, c'est la pointe de ces articles. « Sûr d'être au moins l'égal des plus spirituels rédacteurs, il s'essaya secrètement à cette gymnastique de la pensée. » L'expression « gymnastique de la pensée » est intéressante. Elle nous renvoie à la première figure de l'athlète, de l'écrivain athlète, et ce n'est pas une mauvaise définition de l'épigramme comme cette forme brève liée au petit journal et cette gymnastique de la pensée. dans Illusion perdue, elle est toujours, l'épigramme, caractérisée par cette qualité pointue, aiguisée, il y a de nombreux adjectifs, acérée ou encore acerbe. Ainsi, chez l'un des journalistes du petit milieu, Lucien discerne l'acerbité de sa phrase, toujours pointue et travaillée comme un stylet. L'acerbité, qualité de la phrase épigrammatique, mordante, caustique, agressive. Et voici ce passage, à mon sens, le plus topique pour nous dans Illusion perdue, lorsque Lucien se livre à une épigramme contre son ancienne amante. Dans la verve où il était, il fit à petite plumée. Bon, il faudrait parler de ces petites plumées. L'article terrible promis à Blondet contre Châtelet et Madame de Bargeton, son ancienne maîtresse. Il goûta pendant cette matinée l'un des plaisirs secrets les plus vifs des journalistes, celui d'aiguiser l'épigramme, d'en polir la lame froide qui trouve sa gaine dans le cœur de la victime et de sculpter le manche pour les lecteurs. Le public admire le travail spirituel de cette poignée. Il n'y entend pas malice, il ignore que l'acier du bon mot, altéré de vengeance, barbote dans un amour-propre fouillé savamment, blessé de mille coups. Cet horrible plaisir, sombre et solitaire, dégusté sans témoin, est comme un duel avec un absent, tué à distance avec le tuyau d'une plume, comme si le journaliste avait la puissance fantastique accordée au désir de ceux qui possèdent des talismans dans les contes arabes. Tué avec un mot. Alors le mot plumé est évidemment très intéressant puisque la plumée, c'est la quantité d'encre que peut retenir la plume quand on la trempe dans l'encrier. Mais dans plumé, il y a aussi évidemment l'attaque. Hein, c'est un mot agressif. Plumé, c'est étrié, c'est pigeonné, c'est filouté. Et une plumée, c'est une volée, c'est une raclée aussi. Et puis, il y a ces allusions, j'aurai l'occasion d'y revenir. La notion de vengeance est très importante dans ce combat littéraire. Et si j'arrive à la lettre V, mais je ne sais pas, je crois qu'il y aura une figure vengeance. En tout cas, il y aura une figure duel qui est là. Tous ces termes, c'est important. Et bien sûr, on se souvient de l'apologue du mandarin chinois dans le Père Goriot. Vous vous rappelez cette idée du meurtre à distance sans se salir les mains. C'est une conversation entre Rastignac et Bianchon dans le jardin de Luxembourg. Et Rastignac dit « Te souviens-tu de ce passage où il, c'est Rousseau. En fait, c'est Diderot. Balzac se trompe. Mais où il demande à son lecteur ce qu'il ferait au cas où il pourrait s'enrichir en tuant à la Chine par sa seule volonté un vieux mandarin sans bouger de Paris. Oui, eh bien, bah, j'en suis à mon 33e mandarin. Ne plaisante pas. Allons, s'il t'était prouvé que la chose est possible et qu'il te suffit d'un signe de tête, le ferais-tu ? Est-il bien vieux, le mandarin ? Mais bah, jeune ou vieux, paralytique ou bien portant, ma foi, diantre, eh bien non. Le bon Bianchon conclut à la vie du Chinois. Mais dans Illusion perdue, la conclusion de la guerre littéraire, elle est plutôt à la mort du Chinois ou à la mort de l'adversaire, selon ce conte arabe. Et voilà ce qu'écrivait Balzac à Latouche, au moment de se brouiller avec lui. Il avait été un ami, il devient un ennemi. Il se brouille pour une question d'argent. Et il lui écrit « J'ai écrit sur le revers de la lettre que je viens de recevoir de vous des épigrammes assez sanglantes pour me convaincre qu'il est très facile de forger un poignard et même d'en sculpter le manche. Cette même image qu'on retrouve dans Illusion perdue. Mais d'ici au 15, je n'ai pas plus le temps de frapper que de l'être. C'est donc ainsi qu'il lui signifie l'orbouille. Ni frapper, ni être frappé, nous n'aurons plus de rapport. L'épigramme est donc très présente chez Balzac avec cette dimension de l'exécution et le passage de cette épigramme à petite plumée contre Madame de Bargeton et du Châtelet est suivi de ce commentaire, lui aussi très intéressant, l'épigramme et l'esprit de la haine. Alors dans l'esprit de la haine, on a l'inspiration, on a aussi l'esprit au sens spirituel du wit de l'esprit, et puis on a aussi cette idée de d'essence, de quintessence de la haine qui hérite de toutes les mauvaises passions de l'homme, de même que l'amour consent toutes ses bonnes qualités. Aussi n'est-il pas homme qui ne soit spirituel en se vengeant, par la raison qu'il n'en est pas un à qui l'amour ne donne des jouissances. Malgré la facilité, la vulgarité de cet esprit en France, il est toujours bien accueilli. L'article de Lucien devait mettre et mis le comble à la réputation de malice et de méchanceté du journal. Voilà donc le contexte de cette culture de l'épigramme. Et il y a une expression qui est très courante dans la presse et chez les écrivains contemporains, sur laquelle il faudrait s'appesantir si j'en avais le temps, c'est celle de guerre d'épigrammes, très présente. Il faudrait faire une recherche sur la guerre d'épigrammes. La voici, par exemple, dans une... Ah, mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir... Je voulais vous donner un exemple d'épigramme, mais... Ah non, je n'y suis pas encore. L'épigramme et l'esprit. Oui, l'esprit de la haine. Voici un passage très intéressant sur cette notion de guerre d'épigramme que je prends chez justement un des auteurs qui est passé sous la Restauration directement de la carrière militaire à la carrière journalistique. C'est Auguste Jal. Auguste Jal, personnage intéressant, qui a écrit des souvenirs d'un homme de lettres, qui avait commencé comme élève officier de marine à Brest à la fin de l'Empire, et puis qui a été chassé de la marine royale, quand elle est devenue royale, pour propos subversifs en 1817. Chassé de la marine royale, Auguste Jal est devenu critique d'art, journaliste. Il sera récupéré en 1830 par le régime de Juillet et deviendra l'historiographe officiel de la marine et l'archiviste de la marine. Voici comment il raconte ses souvenirs, Auguste Jal. Comment il s'est formé ? Je m'étais fait un peu la main, se faire la main. Voilà comment on fait ses armes dans la petite presse. Et je m'étais introduit dans le monde des gens de lettres où quelques hommes distingués des littérateurs de l'Empire m'accueillirent non point à cause des dispositions que j'avais, mais à cause de mes disgrâces politiques. J'étais une victime de la réaction, un adversaire naturel du gouvernement royal, il a 20 ans. Je pourrais être utile un jour dans les tirailleurs de l'armée de l'opposition. Et si je n'avais rien du publiciste, de l'homme politique, j'étais assez bien armé pour la guerre d'épigrammes qui commençait, piquante, gaie, assez souriante, d'abord, mais qui à la fin devint cruelle, violente et peu française. Donc on voit là la transition directe du jeune officier chassé de l'armée et récupéré par les les rescapés de l'Empire dans la petite presse. Lui aussi, comme Jeannin, se rangera après 1830. Il y a donc cette notion de guerre d'épigrammes qui traverse toute cette période et qu'on trouverait chez de nombreux écrivains. Voici, puisque j'ai parlé d'épigrammes, tout de même un exemple de ces épigrammes pris du Figaro en 1827, donc le premier Figaro, le Figaro de la Restauration, celui qui a été le modèle de cette petite presse pour longtemps, lui, encore en vers, lui se vendre, et quel prix voulez-vous qu'on l'achète ? Encore un vendu, un corrompu, sans craindre d'avoir fait la plus mauvaise emplette, alors il s'est donné pour rien, pardon, mais qui même à ce prix pourrait vouloir du don. Alors voilà la pointe et la plaisanterie, c'est qu'il s'agit de Jean-François Pierre Dudon. C'est une épigramme contre Dudon. Dudon, baron d'Empire, devenu député ultra, et donc girouette et bête noire du Figaro. Girouette corrompue, et c'est ce qui fait l'objet de l'épigramme. Mais l'épigramme, disais-je, c'est une forme ancienne dans ces années-là. C'est une tradition qui se démode, et il y a des formes nouvelles de l'éreintage qui sont introduites dans la presse de la Restauration et de la monarchie de Juillet. Dans le Figaro, l'expression qui est utilisée en première page du Figaro dans ces années 20, c'est « coup de lancette ».« Coup de lancette ». Dans le Diable boiteux, ce sont des coups de béquille. Dans le Corsaire, ce sont des bordées. Et dans Illusion perdue, on trouve les expressions « coup de pique » ou « coup d'épingle ». Mais ce n'est pas cette expression-là qui me semble la plus intéressante, mais une expression qui, un mot qui véritablement se prolifère dans ces années-là pour désigner l'attaque. C'est le mot de personnalité, en général au pluriel. Nous l'avons déjà rencontré lorsque j'analysais le vocable de guerriero. Lorsque Balzac employait le mot de guerriero et qu'il dénonçait les guêpes, fameuses fascicules d'éreintage, il disait qu'il s'agissait d'un journal plein de personnalité. Et on l'a rencontré aussi déjà dans un cours précédent, lorsque Sainte-Beuve s'en prenait à Latouche et qu'il disait que Latouche avait écrit un tissu d'allusions entrecroisées et de personnalités. Qu'est-ce que ces personnalités au pluriel ? Qu'est-ce que cette notion qui se développe et que l'on trouve partout ? On le trouve y compris chez Balzac, dans Illusion perdue. Voici ce que Balzac écrit de l'article de Lousteau contre Madame de Bargeton. L'article était un tissu de personnalité, comme on les faisait à cette époque. Et puis il y a une addition dans ce qu'on appelle le Furne corrigé de l'édition successive de Balzac, assez sotte, car ce genre fut étrangement perfectionné depuis, notamment par le Figaro. Il s'y trouvait entre Madame de Bargeton, à qui le baron Châtelet faisait la cour, et un os de sèche, un parallèle bouffon qui plaisait sans qu'on eût besoin de connaître les deux personnes desquelles on se moquait. Vous voyez que Balzac utilise à la fois ce mot de personnalité au pluriel et renvoie au Figaro comme le périodique qui, dans les années 26-30, a développé cette nouvelle forme journalistique. Alors, qu'est-ce que c'est ces personnalités ? Eh bien, c'est un mot qui est apparu au XVIIIe siècle, j'y reviendrai la prochaine fois parce qu'il est très important, et qui figure ainsi pour la première fois dans le dictionnaire de l'Académie en 1762. Personnalité, caractère, qualité de ce qui est personnel. L'auteur de cet ouvrage n'est pas nommé, mais la personnalité l'a fait reconnaître. Dans cette affaire, dépouillons toute personnalité pour en juger sainement. Il se prend communément en mauvaise part et signifie alors un trait piquant, injurieux et personnel contre quelqu'un. Il y a dans cette histoire, dans cette critique, beaucoup de personnalité. Le second sens de personnalité au pluriel, dans le dictionnaire de l'Académie en 1762, c'est donc ce trait piquant, injurieux et personnel. Et voyez comment c'est développé en 1835 dans l'édition, sixième édition du dictionnaire de l'Académie, où les exemples sont accumulés et ça nous démontre bien comment le terme s'est répandu. Il signifie encore, donc au deuxième sens, un trait piquant, injurieux et personnel contre quelqu'un. Il y a dans cette critique, vous remarquez qu'histoire n'est plus présent, mais critique. Dans cette critique, beaucoup de personnalité. Ce propos est une personnalité offensante. En discutant, on ne doit se permettre aucune personnalité. C'est une personnalité blâmable que de faire sur la scène une allusion maligne au nom, aux habitudes, aux ouvrages d'un homme connu. La personnalité, en général, au pluriel, c'est donc, sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet, c'est la satire personnelle. C'est le développement ad personam. C'est l'attaque ad personam. C'est l'allégorie grotesque. Et c'est pourquoi, lorsque Madame de Bargeton est comparée à un os de seiche, Balzac utilise l'expression personnalité. La personnalité est allégorique. Et le dernier exemple de la dictionnaire de l'Académie est très intéressant, puisqu'il y a une grande querelle du théâtre dans cette époque sur le fait de savoir si dans le théâtre on peut faire des attaques personnelles. La personnalité, c'est la charge aristophanesque. Comme dans Aristophane, on s'en prend aux personnes, aux individus, et non seulement, comme dans Molière, aux classes, aux genres. Voilà la personnalité, et bien sûr, j'y reviendrai parce qu'elle est très importante comme forme de l'attaque durant cette période, et elle est associée à la caricature. La personnalité, c'est la charge écrite comme la caricature et le portrait charge. Elle est l'équivalent écrit des caricatures de Daumier, de Gavarni ou d'autres. Alors, j'arrête là pour aujourd'hui, puisqu'il est l'heure. Je reviendrai sur ces personnalités qui sont très importantes, qui se substituent à l'épigramme. Et je vous rappelle que je prends des vacances là, pendant 15 jours et que nous nous retrouvons donc le 21 février. Enfin, je prends des vacances. Je prépare les cours suivants, rassurez-vous, mais je ne fais pas cours pendant 2 semaines et je vous donne rendez-vous le 21 février. Merci.